Bonjour, je suis Fanny Frazier, bénévole à Loir-et-Cher Nature, association de protection de la nature départementale. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec des animaux assez méconnus et souvent mal aimés, les batraciens et reptiles du Loir-et-Cher. Pour mieux faire connaissance avec ces espèces, je reçois Dimitri Multo et Dominique Emery. Bonjour Dimitri, tu es bénévole à Loir-et-Cher Nature. Peux-tu tout d'abord nous dire quelle différence existe-t-il entre tous les termes que l'on entend ? Batraciens, amphibiens, grenouilles, crapauds ?
Bonjour Fanny. En réalité, les amphibiens sont une classe du règne animal. En France comme en Europe, elle est uniquement représentée par les batraciens. On distingue deux groupes, en fait. Les anours, qui sont les animaux sans queue, comme les grenouilles, les crapauds, et puis les urodèles, pardon, qui en possèdent une, comme la salamandre tachetée, pour la plus connue, et les tritons. Ce sont toutes des espèces au mode de vie assez singulier, mi-aquatique, mi-terrestre. Quand on rentre dans le détail, en fait, c'est un peu plus subtil, espèce par espèce, chacune a développé un mode de vie différent. Certaines, comme la salamandre, seront quasiment exclusivement sur terre, étant adultes. D'autres, comme les grenouilles vertes, seront essentiellement dans l'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est leur faculté à absorber l'oxygène par la peau. Cette respiration cutanée est essentielle et c'est d'ailleurs en partie à cause de cela que les amphibiens sont aujourd'hui un des groupes, si ce n'est le groupe animal le plus menacé au monde. Le Loir-et-Cher ne fait pas exception à cette règle.
Tu nous dis que ces animaux sont menacés, mais de combien d'espèces parlons-nous pour le Loir-et-Cher ? 4, 5 ?
18. Mais en fait, cette question qui semble simple amène une réponse qui l'est beaucoup moins. Sans entrer dans le détail, il faut savoir que la faculté de certaines espèces à s'hybrider, les progrès scientifiques en termes de description génétique des espèces, l'évolution climatique, la mondialisation et ses apports d'espèces exotiques font qu'il est aujourd'hui difficile de dénombrer précisément les espèces d'amphibiens présents dans les milieux naturels en Loir-et-Cher. Entre 2008 et 2015, un collectif associatif en Loir-et-Cher a inventorié l'ensemble des communes. Le résultat a fait l'objet d'une édition d'un livre, toujours disponible d'ailleurs en vente auprès des associations partenaires. Ce travail a abouti à la description de 22 espèces, comprenant des hybrides naturels, le complexe des grenouilles vertes par exemple, et une espèce aujourd'hui disparue. Et puis quelques nouvelles espèces aussi venant d'animaux exogènes relâchés.
D'ailleurs à ce propos, j'ai entendu parler de grenouilles taureaux. Est-ce exact que cette espèce est présente en Loir-et-Cher ?
En effet, la grenouille taureau fait partie de ces espèces dites exotiques envahissantes. Elle sévit, entre guillemets, sur quelques communes au cœur de la Sologne. Elle représente en fait une grave menace pour notre biodiversité. Elle colonise des milieux de vie où d'autres espèces sont déjà présentes. La grenouille taureau en fait fait l'objet, depuis sa découverte en 2002 en Sologne, d'une lutte afin de l'éradiquer. Alors beaucoup de moyens sont engagés, des moyens humains et financiers, mais les derniers résultats semblent encourageants. Cette espèce, il faut le savoir, elle vient d'origine d'Amérique centrale et elle n'a aucun prédateur en France. Elle effectue des pontes cumulant en moyenne 25 000 œufs, lorsque nos espèces, pour les plus fécondes d'entre elles, en cumulent 10 000, avec des taux de mortalité bien supérieurs à la grenouille taureau. Le Loir-et-Cher est, à ma connaissance, la seule zone en Europe où une telle lutte est organisée et avec de véritables chances d'aboutir.
Existe-t-il d'autres menaces pour ces espèces ? Sont-elles vraiment toutes menacées d'ailleurs ?
Le travail cité tout à l'heure entre 2008 et 2015 par les associations a permis de démontrer le risque de disparition à moyen ou long terme de 10 espèces sur les 18 autochtones. C'est une catastrophe silencieuse, très silencieuse. Car en effet, bon nombre de témoignages relatent de la fin des champs estivaux des rainettes dans les mares de campagne ou encore des halites dans les bourgs de la Beauce. La cause principale, c'est la disparition des pièces d'eau, mares, abreuvoirs, mares de cours de ferme, mares communales, fontaines, mais aussi l'entretien parfois trop aseptisé de nos chemins sans ornières. Et puis aussi les changements de pratiques, l'élevage disparaissant peu à peu de certaines régions, laissant à l'abandon des mares qui se referment. Ajoutez à cela le découpage du territoire par exemple des axes routiers majeurs qui coupent les milieux naturels, les évolutions climatiques, l'évolution climatique en cours et son lot de phénomènes météo extrêmes, des nombreux produits phytosanitaires et pharmaceutiques que l'on retrouve dans l'eau. Ce sont toutes ces raisons qui amènent l'ensemble des naturalistes et des scientifiques à sonner l'alarme. Il faut savoir par exemple qu'en Loir-et-Cher, une espèce commune du début du XXe siècle, le sonneur à ventre jaune, n'est maintenant représentée que par quelques dizaines d'individus, et ce sur un seul site en Loir-et-Cher. Sa survie est déjà peut-être engagée.
Existe-t-il un moyen pour lutter contre ces disparitions ?
Heureusement, oui. Mais c'est la conjugaison des solutions qui permettra cela. Des actions individuelles, mais aussi collectives. Chacun chez soi, si tant est qu'il possède un jardin, peut aider les amphibiens. Créer une mare sans poissons, réaliser un muret de pierres sèches, limiter les produits chimiques, mais aussi participer à améliorer la connaissance, sensibiliser, alerter les pouvoirs publics. Quant au pouvoir public, il revient à chacun, dans ses compétences, d'entretenir, de créer des mares, d'aider les porteurs de projets, de protéger, de sensibiliser, mais aussi de réprimer lorsque cela est nécessaire. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à s'inscrire dans le programme Un dragon dans mon jardin, qui leur permettra de relayer toutes leurs observations afin d'améliorer la connaissance. Et comme vous le savez, c'est lorsque l'on connaît bien que l'on protège bien.
Comme une planète, le magazine de l'écologie intégrale vous donne rendez-vous chaque samedi. Anne Kerléau et ses invités abordent les questions humaines et environnementales dans un esprit résolument joyeux et optimiste. Comme une planète, c'est ce samedi à 10h.
Bonjour la Terre sur RCF. Bonjour la Terre. Bonjour la Terre. Bonjour la Terre.
Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, messieurs Emery et Multo, bénévoles à Loir-et-Cher Nature. Bonjour Dominique, peux-tu nous parler des reptiles du Loir-et-Cher ?
Les reptiles, il y a trois grands groupes, les tortues, les lézards et les serpents, qui comprennent les couleuvres et les vipères.
Ah bon ? Il y a des tortues dans le Loir-et-Cher ?
Eh oui, il existe deux espèces, une indigène, la cistude d'Europe, bien présente en Brenne, dans le département d'à côté, dans le département de l'Indre. Mais il y a une toute petite population qui existe aussi au centre de la Sologne et qui vit dans et autour de quelques étangs. Cette population est bien suivie par l'association Sologne Nature Environnement. La deuxième tortue, c'est la trachémidécrite, qui s'appelait anciennement la tortue de Floride. Ce sont des tortues qui étaient en vente dans les années 80-90 dans toutes les animaleries. Petite tortue qui venait des États-Unis. Cette vente a été interdite en 1997. Ces tortues grossissant, les propriétaires les ont relâchées de temps en temps dans la nature. Mais ces tortues peuvent vivre 50 ans. Donc, elles ne se reproduisent que très rarement dans notre nature, ici dans le Loir-et-Cher, mais il y en a quelques-unes.
Peux-tu nous présenter les lézards du 41 ?
Le plus petit des lézards est le lézard des murailles. Ce petit lézard gris est présent dans toutes les communes du Loir-et-Cher, dans les villes, les villages et les bois. Parfois en très bonne quantité, dans des maisons anciennes par exemple, qui n'ont pas de chat, dans les vieux murs aussi et dans les cimetières. On a vu dans notre étude dont parlait Dimitri qu'il est présent pratiquement dans tous les cimetières du département. Je parle du chat, c'est un terrible prédateur pour ces petits lézards. Le deuxième, le plus gros, c'est le lézard vert qui peut mesurer jusqu'à 40 cm de long. On peut le trouver partout à la lisière des bois et des bosquets, dans des friches, sur des pentes bien ensoleillées, sauf en Beauce car il n'y a peu de bosquets ou de haies. Il existe encore deux espèces de petits lézards, le lézard vivipare et le lézard des souches, mais ils sont tellement rares et en déclin que j'en parlerai pas. Puis un dernier, peut-être mon préféré, l'orvée, qui est en fait un lézard sans pattes. Ce petit animal est souvent pris pour un serpent et tué sans ménagement. Il passe souvent dans les tondeuses, car il vit dans les prairies et les pelouses, et peut pas fuir car il n'est surtout pas rapide. Les populations sont en dramatique diminution.
Il nous reste à connaître ces mal-aimés que sont les serpents.
Eh oui, ces bêtes maléfiques et dangereuses, n'est-ce pas ? Je vais vous parler de la pire, la vipère aspie. D'abord, il n'y a qu'une seule espèce de vipère, ici dans le Loir-et-Cher, et non l'aspie rouge ou l'aspie grise ou l'aspie noire comme on l'entend parfois. Les robes et couleurs des vipères varient beaucoup. Elle est présente partout où il y a des haies, des bosquets, des friches, absente de Beauce, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de certaines communes très boisées du centre de la Sologne. C'est une redoutable prédatrice de micro-mammifères, souris et mulots. Bien sûr, elle mord pour empoisonner ses proies et les attraper facilement, et mord quand elle est attaquée par un chien ou un chat, par exemple. Les morsures d'humains sont maintenant rares et très bien soignées. Il y a moins de 3 décès par morsure de vipère par an en France. Combien d'autres par piqûre d'insectes ? C'est un serpent qui lui aussi est en forte diminution par disparition et morcellement de son habitat.
Et les couleuvres ? Je sais qu'il y a des couleuvres aquatiques.
Oui, t'es bien renseigné. Il existe deux espèces plus aquatiques. La couleuvre vipérine qui chasse sous l'eau, bien connue des pêcheurs. Elle est totalement inoffensive, mais est devenue très très rare elle aussi. L'autre est la couleuvre à collier. Elle s'appelle maintenant la couleuvre helvétique. C'est la plus connue des couleuvres, car elle chasse dans l'eau et hors de l'eau, elle nage très bien. Elle chasse les lézards, les micro-mammifères, les grenouilles, les crapauds. Elle est très reconnaissable à son collier noir et blanc ou jaune. Ces deux couleuvres, donc, nagent très très bien.
Parle-nous des couleuvres terrestres.
D'abord, la plus petite et la plus discrète, la coronelle lisse. C'est une chasseuse de petits lézards. Elle est tellement discrète que les naturalistes ne la trouvent que très rarement. La suivante sera la couleuvre d'Esculape, une bien belle bête qui est le plus grand serpent du département, avec un maximum de 1,50 m. C'est une coureuse. Non, elle n'a pas de pattes, hein, mais elle est très rapide, à terre ou même dans les arbres et les haies. Elle est bien présente dans le Perche. Après, lors de nos enquêtes, nous l'avons trouvée seulement sur Blois et la chaussée Saint-Victor et un tout petit noyau dans la vallée du Cher vers Saint-Aignan et Noyers. Je terminerai par la mystérieuse couleuvre verte et jaune, une belle et grande couleuvre jusqu'à 1,80 m, mais qui n'a pas été formellement trouvée dans le Loir-et-Cher, alors qu'elle est commune au sud de Saint-Loup et Marais, dans l'Indre, et commune dans l'Indre-et-Loire.
Y a-t-il des menaces qui pèsent sur tous ces reptiles ?
Je rappelle que tous ces animaux sont protégés par la loi de 1976, mais hélas, oui, les chats sont de redoutables prédateurs de lézards et de jeunes serpents. Les faisans lâchés par milliers par les chasseurs sont eux aussi, comme des poules, de terribles prédateurs de serpents. Les sangliers aussi peuvent prédater les œufs de tous ces reptiles. Il y a d'autres prédateurs, je pense au cirquet Jean Leblanc, qui est l'aigle mangeur de serpents. Il y en a une bonne trentaine de couples dans le Loir-et-Cher maintenant, essentiellement au sud de la Loire. Bien sûr, la disparition de leurs habitats et surtout le morcellement de ces habitats, car ce sont des espèces peu mobiles, la circulation automobile aussi se font écraser, et les serpents font toujours peur. Ils sont trop souvent tués par des humains sans se préoccuper de la loi, par méconnaissance tout simplement.
Je crois qu'il existe un guide des amphibiens et reptiles du Loir-et-Cher.
Dimitri en a parlé tout à l'heure. Les associations de protection de la nature ont édité un guide en 2017 qu'on peut toujours trouver en s'adressant aux associations, notamment à Loir-et-Cher Nature, par le biais de notre site internet.
Merci messieurs Multo et Emery, vous nous avez passionnés sur les batraciens et reptiles et nous vous donnons rendez-vous le 26 février pour découvrir la grue cendrée.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.